Georges Bensoussan, célèbre historien dont les travaux sont consacrés à l'antisémitisme, à la Shoah et au sionisme, rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah et responsable éditorial au mémorial de la Shoah à Paris, a été jugé le 25 janvier dernier par la Chambre de tribunal de grande instance de Paris. Il était poursuivi pour provocation à la haine par le collectif contre l'islamophobie, le CCIF, pour des propos tenus en 2015 sur l'antenne de France Culture. Georges Bensoussan avait alors déclaré que, je cite, « Dans les familles arabes en France, et tout le monde le sait mais personne ne veut le dire, l'antisémitisme on le tait avec le lait de sa mère ». Il a finalement été relaxé il y a peu, mais les cicatrices demeurent, surtout parce que d'importantes associations antiracistes se sont portées civiles alors. Le LICRA, le MRAP, SOS Racisme et la Ligue des Droits de l'Homme. Attaqué particulièrement dans plusieurs lettres ouvertes par Alain Jakubowicz, directeur de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, Georges Bensoussan a tenu à lui répondre dans une tribune publiée il y a quelques semaines dans le bulletin du CRIF, dont il me tient à cœur de citer quelques passages. Dans sa réponse, il écrit « C'est parce que j'ai pu m'exprimer longuement et posément devant les juges que je ne souhaitais pas prendre part personnellement au débat public suscité par les poursuites judiciaires dont j'ai fait l'objet devant la Chambre correctionnelle de Paris le 25 janvier dernier. Mais les deux lettres ouvertes du président de la LICRA m'y obligent, car il y affirme plusieurs contre-vérités. Monsieur Jakubowicz, si vous avez formellement raison, et si je dois en effet ce procès à l'initiative du parquet, l'honnêteté eût été d'ajouter que ce dernier n'a engagé les poursuites qu'à la suite de la dénonciation, c'est le terme juridique en usage, opérée par le CCIF en mars 2016, 5 mois après les faits. Ignorer le rôle central du CCIF dans ce procès ne peut en rien exonérer de sa responsabilité la LICRA, qui a validé sur le fond la dénonciation du CCIF en se constituant partie civile à ses côtés. Vous reprenez dans vos deux lettres mes propos tenus à France Culture le 10 octobre 2015. Mais vous en donnez une interprétation si caricaturale qu'elle m'oblige à vous répondre en dépit de ma lassitude. Le 10 octobre 2015, à France Culture, évoquant la question de l'antisémitisme d'origine arabo-musulmane, je décidai de citer de mémoire les propos du sociologue Smaïn Lacher, interrogé dans le film de Georges Benayoun, prof en territoire perdu de la République. Je précise de mémoire, car j'étais alors certain, mais à tort, de le citer correctement. J'insiste, il n'y avait aucune volonté de ma part de travestir les propos de M. Lacher, lequel déclarait dans le film de Benayoun, je cite, cet antisémitisme, il est déjà déposé dans l'espace domestique. Il est quasi naturellement déposé sur la langue, déposé dans la langue. Et une des insultes des parents à leurs enfants quand ils veulent les réprimander, c'est qu'il suffit de les traiter de juifs. Bon, mais ça, toutes les familles arabes le savent. C'est une hypocrisie monumentale de ne pas voir que cet antisémitisme, il est d'abord domestique, légitimé, quasi naturalisé au travers d'un certain nombre de distinctions à l'extérieur, dans ce qu'on appelle les ghettos. Il est même difficile d'y échapper, comme dans l'air qu'on respire. Pour ma part, me référant à ces propos qui m'avaient marqué, mais sans avoir sous les yeux le script du film, je déclarais à France Culture « C'est une honte que de maintenir ce tabou, à savoir que dans les familles arabes en France, et tout le monde le sait et personne ne veut le dire, l'antisémitisme on le tait avec le lait de la mer. » De cet antisémitisme dont M. Lacher disait qu'il était quasiment ou quasi naturellement déposé sur la langue, déposé dans la langue et légitimé, quasi naturalisé, je disais moi qu'il était têté avec le lait de la mère. Ce lait maternel qui est la première chose, pour reprendre les termes du sociologue, qui soit quasi naturellement déposé sur la langue. Si la phrase que j'ai prononcée ne traduisait pas exactement le propos de Smaïn Lacher, eh bien leur contenu, leur sens, était exactement le même. Comme il faut aussi rappeler concernant cet antisémitisme arabo-musulman, cette métaphore relative à sa transmission par le lait maternel que j'avais lue maintes et maintes fois en préparant mon livre « Juifs en pays arabe » où le journaliste marocain Saïd Galab, dans un texte intitulé « Les Juifs vont en enfer », écrivait en effet « C'est avec ce lait haineux que nous avons grandi ». Il n'est nullement question ici d'essentialisation, mais bien de transmission. Il n'est nullement question ici d'être, mais de culture. Pour autant, mes propos furent interprétés de telle façon que certains tentèrent d'accréditer l'idée, sur Internet et les réseaux sociaux, que j'avançais la thèse d'un antisémitisme contenu dans les gènes ou dans le sang. Et même, dans un souci de se démarquer du personnage sulfureux que j'étais devenu, M. Smail Nasher alla jusqu'à parler d'ignominie pour avoir déclaré que l'antisémitisme s'en transmettait par le sang. Une diffamation pure, quand je n'ai jamais prononcé ce mot ni rien, pensait de tel. Vous rappelez, monsieur, la formule des deux peuples. Il est question, se disant, de comportements qui interrogent l'unité d'une nation. Parler de deux peuples, c'était faire référence aux minutes de silence non respectées après les assassinats de Mohamed Merah. Des références aux très nombreux « Je ne suis pas Charlie ». Référence d'une manière plus générale à un islam radical et politique dont la pratique et les préceptes poussent à la sécession d'avec le reste de la communauté nationale. Il n'est nullement question dans mon esprit de race, ou, pour dire les choses plus trivialement, d'opposer les Arabes aux Français de souche. Vous-même, M. Jakubowicz, évoquez à propos de l'antisémitisme arabe, mais en me l'imputant, une réalité biologique atavique, voire un antisémitisme de naissance. J'ai du mal à croire qu'un avocat qui se targue aussi d'être un homme de culture puisse ignorer les subtilités de la langue jusqu'à confondre l'antisémitisme tété avec le lait de la mère, c'est-à-dire transmis par l'éducation, avec le sang, cette réalité biologique inaltérable, inamendable et figée. La métaphore du lait maternel appartient de longue date à la langue française. Elle désigne ce qui se transmet culturellement et non biologiquement dans les familles de génération en génération. Vous écrivez « Vos propos servent la surenchère extrémiste ». Comment cacher mon désappointement de lire cet argument de rhétorique stalinienne qui consiste à stigmatiser son adversaire en l'accusant de faire le jeu d'eux? C'était déjà ce que dénonçait George Orwell dans les années 30 à propos de ses camarades socialistes anglais, comme à propos de ce dont il avait été le témoin dans les brigades internationales de la guerre civile espagnole. J'ai l'impression à vous lire, monsieur Jakubowicz, de réentendre la vieille rhétorique communiste des années 50, faire le jeu de l'impérialisme américain, ou le jeu de la bourgeoisie française, etc. De retrouver aussi les amalgames de l'âge d'or du stalinisme en laissant entendre que Louis Alliot, du FN, m'aurait exprimé son soutien. Ce que j'ignorais. Mais peu importe, me voici donc estampillé FN, ce qui confirme le côté nauséabond de mes propos. Procédé par amalgame, telle était la logique des procès de Moscou. Mais ce qui fait le jeu de l'extrémisme en France aujourd'hui, monsieur Jakubowicz, ce qui nourrit les chances d'un parti populiste d'arriver au pouvoir, c'est d'abord le déni de réalité, la stratégie suicidaire de l'aveuglement et du silence. C'est la stratégie des trois singes, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre, qui ne sont pas ici ceux de la sagesse, mais de la démission. Vous prétendez qu'à l'issue des débats, j'aurais trié le bon grain de livret en faisant la part des choses entre les partis civils. Mais vous étiez absent et on vous aura bien mal renseigné. Je n'ai rien fait de tel s'il s'agissait d'examiner combien toutes les parties présentes étaient motivées par la même volonté de déformer mes propos en transformant l'antisémitisme culturel massif des sociétés arabes en un fait biologique, en dénaturant mes mots à dessein d'en faire l'expression du racisme le plus vulgaire. Vous dites présenter des excuses, mais à qui? Êtes-vous le représentant des familles arabes qui auraient pu se sentir insultées par mes propos? M'excuser auprès de vous pour obtenir un sauf-conduit et échapper au triste sort qu'apparemment je méritais? Mais qui êtes-vous, M. Jakubowicz, pour vous trapper dans la posture du grand prêtre doté du pouvoir de dire le bien et le mal? Sous l'effet d'une campagne délirante de calomnie, à partir d'une phrase qui était une citation et dont je persiste à dire que je n'en ai pas altéré l'esprit, j'aurais assigné toute une population à une essence antisémite, quasi génétique pour dire les choses crûment. De là va naître une affaire Bensoussan, bâtie de briques et de brocs, d'approximations et de mensonges, et de l'affaire naîtra un personnage fantasmatique, en particulier sur la toile, cet espace infini où la rumeur et la calomnie sont reines. Je ne vous demande nullement d'être d'accord avec ce que je peux dire ou écrire, mes prises de position et déclarations, qui ne peuvent manquer d'être soumises à la critique aussi virulente soit-elle. Ce que je ne peux accepter en revanche, c'est d'être cloué au pilori pour des intentions ou des pensées que l'on m'attribue et qui n'ont jamais été les miennes. Sortir les mots d'un contexte donné, c'est prendre le risque d'entrer dans une logique inquisitoriale dont Richelieu en son temps s'était fait l'écho. Donnez-moi 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme, j'y trouverai de quoi le faire pendre.